Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Sable. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, dans ce studio de la rue La Salie, dont elle est maintenant familière, Monique Lise Cohen.
Bonjour Christian.
Monique Lise, bonsoir. Merci d'être venue à Radio Occitanie pour présenter ton dernier livre, Monique Lise Cohen, Métamorphose au ciel des solitudes, paru chez un éditeur qui était maintenant lui aussi familier, Horizon, dans la collection Littérature, donc animée par Daniel Cohen, dont nous avons eu également le plaisir de parler, puisque en même temps qu'éditeur, il est lui-même auteur.
Voilà, un grand écrivain, Daniel Cohen.
Alors, si tu veux bien, avant de parler de ces métamorphoses au ciel des solitudes, un livre, je pense, d'une grande originalité par rapport à toutes tes publications antérieures. Je voudrais faire quelques annonces et te dire que nous avons accompagné à sa dernière demeure vendredi dernier Jacqueline Roque. Jacqueline Roque, qui était poète et qui était l'épouse de Henri Heurtebise, donc une voix importante de la poésie ici, dans notre région d'Occitanie, et qui avait fait paraître toute son œuvre essentiellement chez René Rougerie, aux éditions Rougerie, donc, et à Multiple, ainsi que chez Josette Segura à l'arrière-pays. Alors, c'est une œuvre qui est une œuvre quand même significative et qui a été portée par un personnage d'une grande humilité au sens exact du terme. C'est plus que de la modestie, ce n'est pas que de la modestie. C'est une véritable humilité devant la nature, devant la vie, qu'elle replaçait par ses textes, par ses poèmes qui étaient excessivement travaillés, qu'elle replaçait dans cette poésie un peu d'émerveillement, de célébration, mais en même temps une poésie très, très nostalgique, voire douloureuse. Alors Jacqueline Roque nous avait, à l'ensemble des poètes dans les années 80, écrit une lettre où elle nous faisait des propositions, puisque à ce moment-là avait été créé le Passe-Mot avec Claude Saguet, avec Casimir Pratt, avec Philippe-Marie Bernadou, Michel Baglin, etc. Et elle proposait que l'on crée une édition où on expliquerait les poètes majeurs, puisque elle avait été très surprise d'écouter une émission sur France Culture qui lui avait ouvert les voies d'une poésie jusque-là qu'elle n'appréhendait pas trop. Et alors elle demandait, à nous, l'ensemble des poètes qui étaient là, de travailler sur ces auteurs-là et de créer une collection qui s'appellerait Le Passe-Mot fait découvrir. Voilà. Et comme c'était quelqu'un qui était excessivement discret, réservé, eh bien, cette proposition l'avait faite par écrit. Et voilà la fin de sa lettre, qui est une lettre qu'elle avait adressée à chacun de nous. Elle dit ceci. « Amis, que pensez-vous de cette idée? Je vous envoie ma lettre avant la prochaine réunion pour que vous ayez le temps de la peser. Et puis, de vive voix, je ne vois pas si j'aurais su et osé vous la soumettre. Je vous aime tous, mes amis, et c'est pour resserrer encore ces liens que je m'adresse à vous, et en fin de compte, pour ce qui nous unit tous et nous est valeur suprême, de point, la poésie. » Poésie, elle le met en lettres majuscules. À bientôt avec mon amitié. Voilà ce que je voulais dire de Jacqueline Roque. Son œuvre se trouve essentiellement donc aux éditions Rougerie. Je vais simplement lire un texte. « Heure volée peut-être, de femme aimée, d'une orgueilleuse plénitude, grand déballage, amoureuse brocante laissée derrière, où donc vont dormir les moineaux, se dit-elle. » Voilà, une poésie d'une simplicité extrême dans laquelle il y a cette, cette humilité devant la vie. Jacqueline Roch, ce que j'ai lu est extrait de La Note Bleue. Alors je signale que vous pouvez également, pour les auditeurs de Toulouse, vous lire Jacqueline Roch à la bibliothèque du Périgord, hein, où sont ses œuvres. Voilà pour Jacqueline Roch, mais nous en reparlerons puisque nous consacrerons une émission entière, bien entendu, à cette figure qui vient de disparaître du paysage de la poésie, de l'ensemble de notre région occitane, mais qui dépasse bien entendu les limites géographiques. Alors très vite, Michel Cozem, que tu connais bien, continue un travail d'éditeur. Chantal Danjou, La Concomitante, c'est le 408e numéro d'Encre Vive. Jean-Marc Roth, Cette nuit posée sur la nuit, c'est le 469e. Et le 470e Encre Vive est consacré à Ludmilla Podkosova, avec du bleu pour commencer. Je n'ai pas le temps ici de commenter tous ces numéros. Je peux simplement dire que c'est comme toujours, dans ces numéros d'Encre Vive, c'est toujours excellentissime, hein, comme auteur. Et je me réserve bien sûr d'en reparler plus amplement lors d'une prochaine émission. Et j'invite nos éditeurs et tous les amateurs de poésie à s'abonner donc à cette revue. C'est 34 €. Michel Cozem, 2 allées des Allobroges, 31 770 Colomiers. Et tant préciser que les numéros seuls coûtent 6,10 €. Voilà. Voilà pour les annonces. Je me limiterai à ceci parce que je veux évidemment consacrer le plus de temps possible à ce livre « Métamorphose au ciel et des solitudes » de Monique Liszt-Cohen.
En métamorphose au singulier.
Oui, métamorphose au singulier.
J'ai réfléchi, hein, oui. C'était un abîme d'interrogation. Est-ce que ça sera au pluriel ou au singulier? Et puis j'ai choisi le singulier. Enfin, il est venu vers moi.
D'accord, tu nous diras tout à l'heure peut-être pourquoi. Alors, on va te présenter, s'il en est besoin. Tu écris depuis très longtemps, tu as eu une carrière de bibliothécaire à la ville de Toulouse. Tu as publié alors à la fois des essais, puisque tu as fait un doctorat de philosophie avec...
Un doctorat avec Henri Méchonnic.
Avec Henri Méchonnic.
Il n'aurait pas voulu entendre le mot philosophie.
Et ensuite, toute une série de publications, mais pas que des livres, des films également. J'ai eu le plaisir, je dis souvent, de te voir sur la chaîne Histoire avec les films que tu avais réalisés, sur la résistance juive,
sur
l'histoire
des camps.
Voilà. Hein, hein. Donc toute une histoire qui, maintenant, a l'air de découvrir la génération des gens qui ont 40 ans, là, puisque le prix Goncourt vient d'être attribué. Voilà, il y a un livre également sur la vie de Mengele. Voilà. Alors, c'est très bien. Moi, je disais, avant de venir, à mon épouse, je disais, mais ils enfoncent quelque part les portes ouvertes, parce que nous, on connaît ça très bien.
C'est nous qui avons ouvert les portes.
Oui,
hein.
Oui. En tout cas, bon, au départ, ça m'a surpris un peu. Bon, ensuite, j'ai trouvé que c'était très très bien, parce que ça permettait quand même aux générations, on ne se rend pas compte, mais les générations qui arrivent n'ont pas eu la même sensibilisation, la même culture, la même transmission. Et par ailleurs, chacun de ces livres primés recèle un exercice de style, d'écriture. Qui a été récompensé et on ne peut que s'en réjouir. Alors, Monique Liszt-Cohen, dans Métamorphose, au pluriel, au singulier, c'est les solitudes, au ciel. Alors, là aussi, il y a un petit paradoxe, on entendait Métamorphose peut-être au pluriel, on l'a au singulier, et la solitude, ce n'est pas la solitude, mais ce sont les solitudes. C'est donc, solitude est
oui,
aussi.
C'est toi qui me le fais découvrir, hein, Christian. Ce sera l'objet d'un prochain livre, je reste sidérée.
Voilà, donc je me suis un peu interrogé sur ça. Alors, tu as toute une œuvre qui est une œuvre. Tu peux la résumer si tu veux. Tu as beaucoup travaillé par exemple sur Les Juifs ont-ils du cœur, puisqu'il y a eu deux éditions
qui a été ton doctorat, le sujet. Une première édition chez Les Juifs ont-ils, et une deuxième édition, édition Horizon. Et puis pendant toutes ces années, depuis 1980 où j'ai commencé de travailler sur la question du cœur, j'en parle partout, et même dans ce livre également. Il y a ça, il y a l'histoire juive, l'histoire particulièrement des Juifs de Toulouse, l'histoire des Juifs de Toulouse, des travaux sur la guerre et la résistance, et puis des textes, des poèmes. Disons, c'est les trois grandes articulations de mon œuvre, et ceci qui prend un peu la suite d'un livre qu'on avait présenté ensemble, oui. Christian, oui. Le Parchemin du Désir, publié aussi, oui, chez Horizon. C'est un texte littéraire. Je m'avance vers dans la littérature. Je m'avance masquée, comme disait Descartes, mais sur l'invitation de mon éditeur Daniel Cohen, qui me pousse. Et est-ce que je vais y arriver? Peut-être. Il faut continuer.
Alors, pour nos auditeurs, je signale qu'ils peuvent toujours retrouver les émissions que nous avons faites sur ces livres, en particulier donc
tout cela,
le parchemin, voilà, le parchemin du désir, Emmanuel Lévinas et Henri Méchonic, résonance prophétique, Eti et Dizom, que tu m'as fait vraiment découvrir, pas vraiment découvrir, mais approfondir, oui. Puisque ma lecture avait été limitée au digeste, qui avait été publié en poche. J'ai découvert que l'œuvre était une œuvre magistrale dans son intégralité, oui. Une lecture juive. Bon, tout ceci est encore disponible sur notre site les-poètes.fr, ou marqué Monique Liscoen sur le moteur de recherche, et vous les retrouverez, vous pouvez les écouter. Alors, Métamorphose au ciel des solitudes. C'est un nouveau livre, donc, qui a une écriture qui n'est plus dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire un récit historique ou théorique, mais là, on est dans le vécu, le vécu intime de l'auteur. Alors, bien sûr, nous te connaissons et tu ne parles pas à la première personne. Non, tu te caches un peu sous un personnage.
Mais c'est mon prénom hébreu. Hein? C'est mon prénom hébreu, oui.
Oui, oui. Mais tu parles à la troisième personne, quand même.
À la troisième, voilà, personne.
À la troisième personne.
Oui, oui. C'est important. J'avais appris ça de Marthe Robert, quand elle, dans son grande œuvre sur Kafka, puisqu'elle avait même obtenu le prix de la Fondation du judaïsme français pour tout ce qu'elle a écrit à propos de l'œuvre de Kafka, et elle dit que Kafka a réussi à rentrer vraiment en littérature quand il a remplacé le « je » par le « il ». Ça s'est gravé en moi, voilà. Et je me suis dit, je vais faire ce qu'elle dit et ce qu'a fait Kafka.
C'est la différence, si vous voulez, entre le journal et le récit.
Oui.
Est-ce que ça permet une distanciation différente?
Et oui, ça permet une distanciation qui est salutaire. Excusez-moi. D'une part, il y a cette distanciation, elle a lieu aussi dans une psychothérapie. Hein. Une psychothérapie est réussie quand il y a distanciation. Oui. Je raconte ce qui m'est arrivé. Le je n'est plus le moi. Et donc ce qui est arrivé, c'est l'objet d'un récit qui peut être universalisable, si j'avais dit partout « je », j'aurais pas pu le publier, et on n'aurait pas pu me lire non plus.
Oui, voilà. Alors ce que tu viens de dire m'apparaît très important, c'est-à-dire que on arrive à l'universel, c'est un principe d'ailleurs... lors du colloque qui a eu lieu récemment sur la poésie et le lieu, On arrive aussi à cette conclusion, c'est que c'est à partir du particulier, et peut-être même de l'intime du particulier, c'est ce qu'il y a de véritablement le plus particulier, que l'on peut accéder à l'universel.
Oui, voilà. c'est très bien.
Voilà. Et là, c'est pas paradoxal. C'est vrai, je oui. crois, en toutes circonstances. Et c'est, si on n'atteint pas cet universel, c'est que le particulier dont on parle est quelque part raté, quoi.
Oui, hein, oui,
n'a pas été oui, décrit ou n'est pas significatif, c'est-à-dire ne représente pas une part d'humanité.
Oui, et comment dire, ça me fait penser à la fois à mes auteurs préférés, Mechnik et Lévinas. Hein. Lévinas, quand il parle de l'universel par rayonnement, qui n'est pas l'universel par englobement, tout le monde il est pareil, tout le monde il est pareil, c'est un nivellement par le bas. Donc il n'y a plus de récit, parce qu'un récit est unique. Et donc l'universel par rayonnement, c'est un foyer d'intensité en dehors du cercle, qui éclaire le cercle et qui fait que chacun, chacune est élevé dans sa singularité, grâce à l'universel par rayonnement. Et Mechnik, c'est pareil, quand il parle du jeu, le jeu qui se transmet, c'est une socialisation par l'unique. C'est une socialisation par l'unique et pas par le communautaire.
Alors, dans ce livre, tu parles de ta vie personnelle, de ton enfance. Jamais tu n'avais abordé avec autant de précision quand même et de profondeur. Est-ce que il a fallu que tu arrives à, comment dirais-je, une certaine étape de ta vie pour passer cette frontière?
Alors,
tu parles, il y a deux dimensions dans ce livre. Il y a une dimension intime, absolue, hein. Et puis, il y a une dimension, comme je dirais presque tous les livres, si ce n'est tous les livres, hein, c'est la dimension biblique, hein, c'est-à-dire
oui.
la dimension strictement spirituelle. Et là, les deux sont s'intrinsèquent parfaitement, c'est-à-dire que l'intime rejaillit sur la spiritualité, il n'y a pas de... une espèce d'interpénétration profonde dans ce livre.
On trouve que peut-être qu'il ne faut pas appeler la Bible de spiritualité, il faut l'appeler littérature aussi. C'est une grande littérature, la Bible. Oui, oui, oui. Oui. Donc on est dans l'intertextualité.
Oui, c'est le livre.
Oui, oui.
Oui.
Mais ce sont des récits, hein.
Oui, oui.
La Bible, c'est
oui, 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 oui.
Le long
oui,
récit qui déroule toutes les filiations
oui,
humaines
oui.
depuis Adam.
Oui.
Même si c'est, disons, d'origine oui. divine, pour ne pas dire spiritualité.
Oui, oui. D'accord. C'est un mot qui te gêne, là
ouais,
ou, ouais. Par rapport à la Bible ou d'une façon générale?
De façon générale et par rapport à la Bible, parce que spirituel, dans le registre grec, c'est-à-dire philosophique dont nous héritons, c'est sans texte.
Oui,
il n'y a pas de texte, c'est un état contemplatif.
Oui.
Tandis que la Bible, c'est vraiment la littérature.
Oui.
Et la Bible, puisqu'on dit il y a Torah écrite, le Pentateuque, Torah orale, les autres livres, mais ce sont des livres qui sont écrits par la suite, inspirés par le premier texte. Comme nous, toi et moi, nous sommes écrivains et nous écrivons dans l'intertextualité, inspirés par d'autres textes.
Oui.
Voilà. Donc j'ai ce rapport à la Bible. Si c'était la spiritualité, je ne pourrais pas écrire.
Oui. Mais la Bible induit quand même peut induire un dépassement de soi ensuite de non.
Mais la littérature aussi, une... hein.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Et puis bon, Dieu dans la Bible, c'est le premier écrivain.
Oui.
C'est le premier écrivain. On dit que le cadeau qu'il a fait à Adam. Ce sont les lettres de l'alphabet et que les anges en ont été extrêmement jaloux. Voilà. Parce que l'histoire qu'il y a dans le prologue de l'évangile de Jean et le Verbe s'est fait chair,
oui.
c'est bon, dans le monde païen où le christianisme s'est développé, c'est arrivé à un seul, à Jésus-Christ. Mais ce que dit la Bible, c'est que c'est tout le monde, toi et moi, hein, le Verbe qui se fait chair. Et c'est le cadeau que Dieu nous fait.
Oui. Alors, tu racontes donc ta vie, d'abord ta vie d'enfant. Le prénom hébreu dont tu parles, c'est Ahuva.
Ahuva Menorah. C'est mon père qui m'avait appelé ainsi. Ahuva, ça veut dire l'amour. Et Menorah, c'est le repos, la sérénité. C'est tout un programme.
Oui,
hein.
Oui. Et donc, il y a ce dialogue avec, en définitive, avec toi-même. Hein. Donc, c'est un dialogue avec toi-même, ce livre aussi.
Peut-être.
Du fait du récit.
Oui.
Hein.
J'interroge cet enfant, oui.
Oui. Oui.
J'interroge cet enfant, oui. Oui, oui. Oui.
Et bon, tu l'interroges avec beaucoup de bienveillance quand même.
Oui, oui, oui. Je l'aime.
Donc la question c'est, bon, on a bien compris, on a dit dès le départ que Ahuva, bien sûr, c'est Monique Elise Cohen.
Et dans le parchemin des désirs, je m'appelais Menorah.
Menorah. Oui.
C'est l'autre partie de mon prénom.
Oui, oui, oui. D'accord. Alors, si tu veux bien, est-ce qu'on ne pourrait pas... Alors, on va parler de l'enfance, bien sûr. Il y a un traumatisme à l'enfance, je te laisse le dire à nos auditeurs.
Est-ce que Bon, c'est plusieurs morts. Une petite sœur, ma mère, et puis après...
Ta mère, très jeune, quand même.
Oui, elle avait 29 ans quand elle est partie. J'avais 2 ans et demi. Et puis après, une grande incompréhension entre ma belle-mère et moi, la deuxième femme de mon père, et une plongée dans l'incompréhension et le malentendu complet, et dans la détresse. Mais je n'ai pas raconté.
Oui. Alors, est-ce que, bon, ce que tu viens de dire, est, là aussi, je pense que... On peut, bien entendu, par empathie... se mettre à la place d'eux, mais je crois qu'également, il doit y avoir beaucoup de personnes qui ont vécu des situations similaires.
Oui, hein. Oui, oui. Oui, oui. Et le problème, c'est de les dire en littérature. Qu'est-ce que ça devient en littérature? Voilà. Donc, c'est vrai que, bon, on en parlait, j'ai reçu le prix de l'essai littéraire au dernier salon du livre des gourmets de lettres.
Pour ce livre, bien
oui,
sûr.
Et ce que j'ai dit, c'est que pendant longtemps, je n'osais pas le présenter. D'abord, j'ai hésité à l'écrire, et puis je n'osais pas le présenter. Et le fait que je reçoive ce prix, c'était comme une reconnaissance, justement, de l'universalité de cette écriture. Mais je voulais te demander, toi, Christian, qui es poète, écrivain, bon, c'est moi qui t'interview maintenant. Comment tu le reçois en dehors de l'empathie?
Comme ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire avant tout c'est un livre. Voilà. Avant tout c'est un livre et c'est un récit ce que tu viens de dire et tu m'as un peu interpellé à ce que tu me dis de la Bible parce que ça me paraît une évidence absolue. Donc de la même façon. Hein, je lis une histoire qui me, je vais dire le mot, hein, qui me bouleverse quand même. Voilà. Un récit qui provoque en moi une série d'émotions avant la réflexion. Voilà. C'est-à-dire que ça passe quand même, ton livre... peut-être que, à l'inverse des livres précédents, où la réflexion prime un petit peu sur sur le côté émotion, donc sur le côté de l'expérience d'un monde sensible, hein, c'est l'expérience que l'on fait à travers la lecture, puisque le lecteur s'assimile, bien sûr, à Ahuva. C'est l'expérience qui fait du monde sensible, l'émotion qui en résulte, qui arrive avant effectivement la réflexion, qui est une réflexion, bien entendu, qui, elle, rejoint ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'universel. Mais la première, je dirais, la première impression du livre, c'est le plaisir de la lecture. C'est le plaisir de la lecture.
Oui,
parce que cette
ça,
émotion,
oui.
Si tu n'as oui. pas cette émotion, même si c'est une émotion, comment dirais-je, d'empathie, etc., de dire, mince, même on peut avoir du chagrin aussi en disant ça, il n'en demeure pas moins, et ça, je crois que c'est quand même le grand miracle de la littérature aussi,
oui.
comme de tous les arts, c'est qu'en même temps, elle provoque
un
vrai plaisir.
Moi,
un vrai plaisir.
Voilà. J'ai eu du plaisir à l'écrire,
voilà.
C'est ça, oui.
Oui.
Je me suis sortie d'une souffrance
oui.
ancienne.
Oui.
Et j'ai eu du plaisir à, justement, c'est une métamorphose, hein.
Oui. Alors, est-ce qu'il y a une catharsis, là aussi, dans l'écriture de ce livre?
Catharsis, c'est, redis-moi ce que ça
c'est,
veut dire.
C'est-à-dire, est-ce que
comme
une espèce de thérapie, si tu veux, qui aboutit à quelque chose. C'est-à-dire que, à la fin de l'écriture, tu t'es soit débarrassé de quelque chose de gênant. Tu te sens, il y a de malaise, tu arrives à véritablement un bien-être.
Alors, je dirais tout simplement oui. Oui, même si, oui, parce que...
C'est important quand même.
Même si c'est pas la même chose qu'une psychothérapie, parce que j'ai fait des psychothérapies, c'est pas la même chose, mais il y a dans les deux un phénomène de distanciation et on se débarrasse. C'est une alchimie, hein, l'écriture. Transformer le plomb de la réalité dans l'or de la lettre. Hein, donc c'est peut-être métamorphose, c'est peut-être le nom de cette alchimie. On est surpris, on est émerveillé. D'assister à cette transformation dont on est soi-même l'artisan.
Oui, transformer la réalité
telle qu'on
le pensait, le plan en or. Quoi.
Le plan de la réalité dans l'or de la lettre.
Oui. Alors, dans ce livre, il y a, je pense qu'il y a ta personnalité profonde, et ta personnalité profonde, elle est indissociable de l'aspect culturel, social, littéraire, bien sûr. Hein. Il y a tout un développement qui fait que bon, ta vie est liée aussi à cet épanouissement, hein, d'une vie sociale, culturelle et littéraire.
Ben oui, j'ai eu cette chance inouïe, c'est d'être d'avoir été guidée vers la grande bibliothèque de Toulouse où j'ai fait ma carrière, 1 million de livres. C'est une matrice, hein, dans laquelle on grandit. Ouais, ouais. Ça a été...
Oui.
Ouais.
Tu as passé ta vie dans les livres.
Oui,
dans
oui.
le livre et dans les livres.
Oui, hein? Oui, oui, oui.
Et tu as écrit des livres.
J'ai écrit des livres. J'ai appris à écrire à la bibliothèque. Hein. Il a fallu me nettoyer des scories de l'extrême gauche dans lesquelles j'avais fait mes premières armes d'écriture, mais sur le modèle de tracts de slogans. Bon, je ne parle pas de mes études de philosophie avec mes dissertations, mais une écriture un peu personnelle, eh bien, il a fallu se défaire du style politique, et c'est en étant au milieu de ces millions, de ces centaines de milliers de livres, qu'on apprend doucement à écrire. Ça a été très lent pour moi, hein. Ça a été lent, mais heureux.
Alors, tu fais partie de cette génération qui était étudiante en mai 68. On parle maintenant de commémorer. 1968, ça c'est inattendu. Donc ça fait 50 ans. Et 68, ça a été une époque des utopies, de ces idées de révolution. Qu'est-ce qu'il en reste pour toi? Alors, je veux dire, dans ta personnalité.
Bon, je suis contente d'avoir vécu 68 à la fac de Toulouse, où c'était nous, les étudiants de philosophie, qui dirigeons, qui pensions diriger le mouvement, alors qu'il y avait des organisations d'extrême gauche qui avaient des vues plus précises sur l'orientation des mouvements. Mais n'empêche que ce qu'on a fait a véritablement existé. J'ai toujours avec moi mon cahier de 68.
Ah oui.
On faisait des groupes interdisciplinaires. On parlait de la Grèce comme objet théorique, la production littéraire. Je me souviens que de ces deux noms, mais il y avait d'autres groupes. Et c'était vraiment une activité très profonde, très, très, très littéraire. On avait invité Derrida, qui nous avait fait des conférences à la fac et à l'Union départementale CFDT sur Mallarmé et sur le A de la différence. On avait invité Kostas Axelos. L'été, il y avait eu des rencontres pour continuer de lire entre nous la critique de la raison pure de Kant. Je veux dire, 68, ça a été ça aussi. Hein. Ça n'a pas été uniquement ce qu'il en est resté sur le plan sociologique.
Oui.
Mais ça a été... Alors, pour nous, c'était la réalisation de la République de Platon, c'est-à-dire le philosophe roi. Voilà. Donc, dans mon livre que tu as lu, je critique la révolution, mais c'est après, quand j'étais dans l'organisation d'extrême gauche, la Ligue communiste, l'idéologie du commencement radical, c'est ça que je critique, de vouloir maîtriser le temps. Mais ce qui s'est passé en 68, il y a eu un ravissement dans les études et dans la littérature. Un moment comme ça. Je ne le renie pas, je suis heureuse d'avoir connu.
Alors, on pourrait lire peut-être un extrait de ce livre pour donner aux auditeurs une vue du temps. Hein.
Oui, tu
Donc,
le dis, Christian
si tu veux. Oui. Alors là, on va parler de l'illusion de vivre l'instant présent, puisque tu viens d'en parler.
Oui.
Et tu dis, on ne maîtrise pas le temps. Hein? Tu nous expliqueras peut-être un peu ça.
Ah, on essaiera.
Hein? Alors. Donc, Aouva, donc c'est toi. Aouva avait laissé venir en elle le souvenir de ce film, Prima della Rivoluzione, dont l'évocation rassemblait malheur et joie, Léa et Rachel. Et je pense ce soir que c'est l'absence d'un foyer qui l'animait comme une flamme secrète. Mais d'où venait ce titre? Moi qui me penche vers cette histoire, je lis les commentaires de ce film et je découvre qu'il doit son titre à une phrase de Talleyrand. Celui qui n'a pas vécu au XVIIIe siècle avant la Révolution, prima della Rivoluzione, ne connaît pas la douceur de vivre et ne peut imaginer ce qu'il y a de bonheur dans la vie. C'est la plus grande critique de la Révolution que je saurais lire aujourd'hui. J'ai entendu également ces jours-ci, très précisément le vendredi 24 mars 2017, lors de l'émission Les Grandes Gueules sur la radio RMC, Radio Monte Carlo, que des révolutionnaires de 1789 et des années ardentes qui suivirent, avaient décidé de ne plus jamais sourire, car le sourire était un des signes de l'ancien régime abhorré, avant la Révolution. Étudiant le film, je décrypte tout d'abord que le jeune Fabrizio, devenu marxiste, quitte sa fiancée et se lance dans des aventures sexuelles avec une tante séductrice entourée de nombreux amants. Et je me demande pourquoi la Révolution marche avec la liberté sexuelle. Je crois y voir comme cette folie des bolcheviks qui, pendant les journées sanglantes et ardentes de la Révolution russe, tiraient sur des horloges pour arrêter le temps. Je crois y voir l'illusion de vivre l'instant présent pour arrêter le flux temporel. Les jours qui passent où pouvait se déployer cette douceur de vivre qu'Aouva n'avait pas connue. Au terme de mes études, je dirais encore que cette volonté de vivre l'instant présent ne me paraît pas plus propre à l'instant révolutionnaire, à la pointe du fusil, qu'au cogito cartésien qui nomme cette présence à soi et au monde. Pas plus d'ailleurs que l'idée trop philosophique de la présence de Dieu où aucun lecteur de la Bible ne se reconnaîtrait. Pas plus encore que tous les boudoirs d'énergie positive où on voudrait nous forcer à vivre l'instant présent. Ce soir, tout ce micmac de la présence me fait hausser les épaules. Et je renverrai dans le même panier dérisoire l'utopie révolutionnaire et les magazines de bien-être. Je pense ce soir à l'étonnante parole d'Emmanuel Lévinas sur le non-présent de la jouissance. Et j'aime citer ce texte qui me console des errements d'Aouva. Il dit ainsi, dans un court essai, Énigme et phénomène, que la conscience de soi se tient haletante dans l'avant et dans l'après, et que dans l'entretemps, l'événement attendu vire en passé sans être vécu, sans être égalé dans aucun présent. Il dit cette phrase que j'aime répéter et transmettre à celles et ceux qui lisent ou qui ne lisent pas les grandes expériences de notre vie n'ont jamais été, à proprement parler, vécues. Alors, là, dans ce texte, on parle de l'intime, puisque c'est quand même le vécu, tu parles de ce passé révolutionnaire, etc. Mais là, on retrouve la Monique Listowen théorique.
Oui, hein? Je ne peux pas m'empêcher. Oui. Je ne peux pas m'empêcher.
Oui. Je sais comment mais c'est vrai ce que tu viens de dire. Alors, est une vérité profonde, hein, quand on te connaît, au bout d'un moment... sur un sujet que l'on peut lancer de façon très anodine, etc., tu vas retomber effectivement sur des valeurs, d'une grande abstraction, mais d'une grande généralité qui vont transcender
ça
totalement
doit,
la
ça
conversation.
Doit énerver un peu aussi. Je crois que je t'ai énervé des fois.
Non, pas vraiment. Alors, le temps. Je disais il y a peu de dimanche dernier, là, justement, à l'occasion de ce salon qui t'a remis ce prix, le salon des gourmets de lettres, je citais une phrase de Charles Ferdinand Ramus qui dit « Le poète immobilise l'espace, deux points, il tente de le guérir de sa maladie qui est le temps.
Ah, » Il faudra que je recopie cette phrase.
Alors, j'ai pas trouvé mieux pour expliquer d'abord le fait que l'espace et le temps sont étroitement liés, pour ne pas dire indissociables, du moins pour nous, dans notre finitude, ce qui est absolument pas vrai pour ce qu'on appelle Dieu ou le néant, ou bien entendu l'éternité, c'est-à-dire là où n'existe ni le temps ni l'espace.
Mmh.
Voilà. Alors, ça, je sais que tu vas réagir
c'est
à ce
grec,
propos.
C'est oui, philosophique, oui. C'est platonicien. Tu parles.
Oui. Oui. Alors.
Mais même en grec, il y a différentes notions du temps. Il y a le chronos et kairos. Chronos, c'est le temps qui passe, et kairos, c'est l'occasion, le moment. Quand tu dis, en hébreu, c'est le temps qui passe, c'est zman, et l'occasion, le moment, l'heure, c'est et. Bon. Donc, j'ai parlé dans les termes français, le temps, la durée et le moment. Tu le dis, c'est mon heure. C'est le moment. Et ce n'est pas un temps qui passe. Donc, il n'y a pas la maladie, là, dont la citation que tu évoques. laisse la résonance dans ce qui est le moment. Quand il sait mon heure, là, il y a une jonction du temps et de l'espace qui transcende les concepts du temps qui passe et d'une étendue infinie ou restreinte. Oui. Il y a autre chose. Il y a autre chose qui se noue là. Je l'avais perçu, je l'avais écrit quand j'ai écrit le livre sur la Rossellito, sur Carmen Gomez. Oui, oui. Je disais. Je parlais d'un moment quand elle avait appris cette danse des pieds, je ne sais plus comment on dit. J'ai dit que quand résonne la parole éternelle du maître à son élève, tu peux le faire. Ça, c'est une autre dimension de l'éternité que l'éternité de type spirituel où rien ne se passe. Hein? Voilà. Au contraire, c'est là où il y a la plus grande intensité de ce qui se passe. Mais c'est éternel. Mmh. C'est une autre éternité. Une intensité.
Oui. Tout est dans l'intensité.
C'est une intensité dans le temps et dans l'espace. Oui. Et quand on écrit, ben.
Tu es dans ce temps-là.
Et toi aussi, je pense.
Oui.
On a plus que tout le temps. C'est un autre temps qui nous est donné. Mais ce temps-là. Si on le cherche, on ne le trouve pas. C'est un temps que nous devons prendre, et quand on le prend, il nous est donné en surcroît, comme la grâce qui vient du ciel.
Oui. On trouve un peu ce que, à propos de la grâce, je pense à Simone Veil.
La pesanteur et la grâce.
Voilà, bon, ça donne donc un aspect de ce livre, hein, c'est effectivement. Il interroge et il prête à là par exemple ce que tu dis sur le temps sur 68 etc. C'est quand même d'une grande originalité. Il y a des tas de gens qui ont fait des expériences tout à fait différentes, qui auront un concept
c'était
différent
quand même
aussi,
c'est possible bien sûr, mais ces choses-là ont existé. Moi, je l'ai, mon cahier de 68. Hein. Si on me demande des preuves, je l'ai gardé. Avec les conférences de Derrida, l'Union départementale CFDT sur le art de la différence et sur Mallarmé. J'ai tout ça. Ça a existé. Ouais.
Alors, tu parles aussi du grand rabbin Sirat. Je me souviens de ça. Tu l'avais. Qu'est-ce que tu avais fait sur.
Le grand rabbin Sirat, qui a été grand rabbin de France, qui a été le président du jury de ma thèse.
Ah, voilà.
Il a suivi tous les travaux que j'ai fait à la bibliothèque de Toulouse, avec beaucoup d'amitié, de compréhension, d'attention. Voilà.
Alors, tu parles de la Bible. Est-ce qu'on a, on peut peut-être parler de ça? Une époque où on parle beaucoup des femmes, de la coercition qui a existé sur la liberté des femmes, quand même qui a été entravée.
On est là-dedans avec Balance ton porc.
Oui.
On n'est pas sorti, on peut parler simplement de l'actualité aussi. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur le.
Tu pourrais peut-être lire d'abord, on a quelques minutes.
Sur les femmes, je peux résumer. Hein,
résume.
Je veux résumer.
Oui, je crois que c'est quelque chose aussi.
Quand il y a la malédiction sur la femme, une malédiction, c'est pas un état de nature. Hein.
Oui.
C'est, on dit voilà ce qui va se passer. Alors, ça donne à la fois la situation, le châtiment et la façon de s'en sortir. Donc. Tu accoucheras dans la douleur, ton mari la passion te dirigera vers ton mari et lui dominera sur toi. Bon voilà, alors la maman et la putain, c'est bien dessiné. Sauf que Rashi, qui est le grand commentateur juif médiéval, commente cette situation en disant elle n'aura pas le front de nommer son propre désir. C'est-à-dire que pour sortir de la malédiction, avec des guillemets, hein, parce que c'est pas un état de nature, hein, c'est une situation provisoire, eh ben, les femmes doivent apprendre à nommer leur désir. Alors, on s'est souvent trompé, mais il n'empêche que c'était le critère des mouvements de femmes, nommer son désir. Alors, c'est vrai que ça peut être aussi n'importe quoi ou un espace de fouillis, mais pour la plupart d'entre nous, non. Parce que je ne voudrais pas revivre ce que je vivais avant les mouvements de femmes que j'ai connus dans les années 70. Ah, j'ai pas envie, non. J'ai pas envie.
À ce point, ah oui.
Ah, mais c'est-à-dire que j'ai pu nommer mon désir d'écrire dans les mouvements de femmes.
Oui.
Tu vois ?
D'accord.
Avant, je pensais que c'était mon époux qui devait. Qui avait une carrière, que moi j'étais là pour l'aider. Bon, ben, on peut être heureux aussi comme ça. Mais moi j'avais depuis l'adolescence inscrit en moi, comme on plante une graine en terre, le désir d'écrire. Et j'ai pu le nommer là.
Oui.
Alors, voilà.
Oui. Et tu t'es tenue. Et au combien ?
Je me suis tenue.
Ça n'a pas toujours été facile quand même.
Voilà, oui, mais on n'a rien sans rien. Hein.
Oui,
je veux dire, quand on reçoit un don, il faut le mériter. Tu sais, c'est comme dans les contes et légendes. C'est un prince qui doit se marier avec une princesse et aller là-bas, elle est prisonnière d'un méchant démon, il doit traverser des quantités d'épreuves et puis il y arrive, quoi.
Monique Elise, je voudrais que l'on termine. On est presque arrivé à la fin de cette émission. Je voudrais t'entendre lire un passage de ce livre. Qu'est-ce que tu
veux
pourrais
que je lise la conclusion
choisir ? Alors peut-être, oui.
Voilà. Alors, quel était ce centre, cette blessure, ce creux en oubli, cet appel lointain, une voix de silence, ce lieu étrange qui se retire, vers lequel on est appelé, aspiré, qui féconde l'œuvre en cours, mais qui se retire, presque désespérément. On passe une vie à se tromper à cet égard. À Ouva retenait la fin comme le lava l'Erichstein, cette crête immobile avant la venue de jour. Cet élan vers sa mère avant la disparition, l'effacement, toujours inquiète jusqu'à crier de douleur lors d'un rendez-vous manqué. Elle attendait sa mère à la pointe extrême de ses forces de vie. Elle recommença cet effort ultime dans la pratique révolutionnaire. Illusion du commencement radical. Elle voulait retenir la fin et le commencement, mais les deux plongeaient dans l'illusion du présent. En fait, le commencement existe dans notre incarnation et la Bible le nomme. Mais contrairement aux traductions désespérément philosophiques, le texte ne dit pas « au commencement » mais « Bereshit » dans un commencement. Dans un commencement de quelque chose, précise Rashi, car le mot est à l'état construit. On commence comme on peut, enseignait le kabbaliste Jean-Jacques Lade. Alors, l'infini vient dans nos mains, irradiant cette douce lumière dont parlent les mystiques. Ni la fin ni le commencement ne nous appartiennent, on met le temps d'une vie à entendre l'appel qui provient d'ailleurs, de l'infini. Un temps qui ne nous appartient plus, un temps qui prend notre main et pour lequel nous rendons grâce.
C'est exactement ça.
Oui.
Cette préoccupation du temps. Alors, peut-être un autre extrait.
Après, c'est le glossaire.
Alors, le glossaire, il faut connaître un peu l'arbre sophorotique.
Il y a l'arbre des séphirotes dans la Kabbale hébraïque.
Oui.
Ce sont beaucoup de concepts, d'expressions bibliques qui sont dans mon livre et que j'expose dans le champ des connaissances, de la connaissance.
Alors, je vais revenir, moi, si tu le veux bien, sur un des textes que. C'est le chemin de l'enseignement.
C'est quelle page ?
Alors, chemin de l'enseignement, c'est page 85.
Ah, c'est la circoncision, circoncision du cœur.
Oui. On peut finir là-dessus ?
On finit là-dessus, puisque c'est le grand chemin de ma réflexion. La Bible ancienne et Nouveau Testament dit que le cœur n'est pas bon, qu'il doit être circoncis. Et le caractère juif que saint Paul transmet aux nations du monde, c'est la circoncision du cœur. Il y a deux circoncisions dans le Deutéronome de la Bible. Une première circoncision où l'être humain circoncit son cœur dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, j'ai des comptes à rendre, il y a quelqu'un en face de moi. et une deuxième circoncision où Dieu vient parachever par amour la circoncision du cœur. Voilà. Donc la circoncision, mais on le dit aussi en français. Un cœur fermé, on dit à quelqu'un qui souffre, ouvre ton cœur. C'est une ouverture. Et mon livre précédent portait ce sous-titre inspiré d'Henri Méchonic, Les Juifs ont-ils du cœur, et ce sous-titre, Une intime extériorité, parce que c'est le nom de la circoncision du cœur.
Merci beaucoup, Monique Lescohen. Alors, je voudrais dire tout de même que ce livre se lit d'une façon d'abord très, très jubilatoire, que tout le côté théorique dont on vient de parler est totalement avalé, je dirais, par justement par l'écriture, hein, par cet extraordinaire sens de l'écriture, donc de Monique Lescohen, et que on peut lire ce livre vraiment d'une façon comme on lit un roman aussi, hein, comme on lit un roman, parce que il y a ce plaisir. Je rappelle le titre, Monique Lescohen, Métamorphose au ciel des solitudes, aux éditions Horizon, sans H. Le livre vous coûtera 16 euros.
Voilà. Et il sera présenté le 19 décembre à la librairie Ombre Blanche.
19 décembre, donc, Monique Lescohen présentera ce livre dont vous venez d'entendre parler. Merci beaucoup, Monique Lise.
Merci, Christian.
À bientôt.
À bientôt.
Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Adiciat.